droite.
Une ZAD en plein cœur de la ville contre un promoteur féroce. C'est le titre de l'article de Libération que j'ai sous le bras. Et me voilà à Rouen. Et à quelques minutes à pied de la gare...
C'est bien.
Ah voilà, rue de Joyeuse. Un théâtre à droite. Le couvent des Dominicains sur la gauche. Et voilà, là il y a une banderole. Occupation, hashtag partout. Foyer Sainte-Marie, jeune fille, étudiante. Et il y a malheureusement un permis de démolir sur la façade, daté du 17 juin 2021. Bénéficiaire SAS CDLK. Superficie du terrain 7 935 m². Voilà, il y a une petite boîte aux lettres avec les noms des occupants habitants. Jardin Joyeux de rue Joyeuse. Mercredi 15 décembre au jardin de 14 à 18h, après-midi expo photo plus point d'info. 19h30, réunion publique au théâtre des Deux Rives, au bout de la rue donc. Voilà maintenant 6 mois que nous occupons les jardins joyeux. Nous demandons la sauvegarde de cet écrin de verdure en plein cœur du quartier et du patrimoine architectural unique de ce lieu. Nous les avons investis et nous tentons de les sauver pour inventer ensemble l'avenir de ce lieu. Voisins, voisines du quartier Saint-Nicaise, votre quartier mérite mieux que la bétonisation. Il y a une cour, il y a une belle courette là. Un petit poste d'accueil. Appel aux dons pour les jardins joyeux. Sur, paille, boîte de construction, outils de jardinage, palettes, matériel de cuisine, grands seaux, gros bidons d'eau, nourriture, vaisselle, bouteilles de gaz, bac à vaisselle, lunettes de toilette, draps, papier, matériel de bricolage, peinture, tente, matelas, chaises, sacs de couchage, fauteuils, tables, etc. Voilà, c'est pour les jardins joyeux, pour qu'ils restent jardins et joyeux. Et on passe sous un porche. Il y a un grand jardin, une chapelle au fond. Et là, j'entends du bruit. Bonjour. Alors là, c'est votre salle un peu de réunion.
Ouais, là, c'est la salle de bal.
La salle de bal.
Ouais. Je pense que ça devait être le réfectoire où les jeunes filles mangeaient. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu pas mal de congrégations qui se sont succédées, à peu près trois. Et la dernière utilisation, c'était un foyer de jeunes filles tenu par des bonnes sœurs. Et à la fin, en 2018, il y avait de moins en moins de jeunes filles, et seulement une bonne sœur qui est restée, et qui a finalement revendu les lieux. Donc là, la mairie aurait pu faire usage du droit de préemption, mais le lieu a été revendu pour 4 millions d'euros à d'abord un premier groupe, et puis après à CDLK, propriétaire actuel.
Et qui a déposé le permis de construire, hein, c'est ça ? Ouais, de démolir, ça. Dans un premier
ouais,
temps.
Oui, c'est ça. Ouais. Peu de réhabilitation, beaucoup de destruction, et puis la construction sur les 4000 m² de jardin d'un immeuble avec 120 logements, neufs de haut standing.
C'est tout de suite moins joyeux, hein.
Dans la salle de bal, il y a pas mal de concerts. Là, qui
donc c'est vous hein, qui l'avez rebaptisé salle de bal, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est la salle de bal parce que c'est l'endroit où on organise pas mal de concerts. Ça, c'est l'activité qu'on a mis en place là, dans les lieux, en plus de l'hébergement. Ça fait 6 mois. On a fêté récemment les 6 mois, le 13-12.
Alors là, il y a quand même une chapelle, là. Hein.
Ouais, la chapelle aussi, elle appartient au lieu. Une chapelle qui date du 19e siècle. Bon, elle serait normalement, c'est pas très clair, mais elle serait conservée dans le projet initial. On ne sait pas vraiment si ce serait rétrocédé ou pas à la mairie. Et on ne sait pas vraiment l'utilisation qui serait la sienne, quoi, dans le projet proposé par CDLK. Mais ouais, c'est un lieu impressionnant. Là, on a fait quelques concerts de musique classique... des scènes ouvertes où chacune venait lire des textes. Il y a eu pas mal d'événements aussi qui ont été faits à cet endroit-là.
Bon, vous avez retrouvé le stock de vin de messe ou pas, la cave? Non, ça doit exister.
Ça a disparu comme pas mal de choses parce que le lieu il a été laissé à l'abandon vraiment pendant longtemps. Donc on est là, on n'est pas la première occupation dans ce lieu-là, mais on est la première occupation à donner une dimension politique à cette occupation-là. Pour ça, il y a quelques dégradations, des choses comme ça qui étaient là avant nous. Surtout que CDLK avait laissé grand ouvert plein de fenêtres, avait cassé toute une partie du mobilier, etc. Donc il y a eu beaucoup de dégâts quand on est arrivé.
Alors on est en plein centre-ville, hein. On voit la cathédrale là, quand on passe dans la rue Joyeuse là.
Oui.
C'est ça, c'est quand même un endroit assez, on va dire, stratégique, non, j'imagine, pour un promoteur.
C'est un projet vitrine, c'est une entreprise qui est de Caen. Et ils veulent vraiment faire leur vitrine pour une implantation sur la métropole rouanaise. Donc c'est pour ça qu'il est démesuré. En fait, C'était un lieu, un quartier qui a longtemps été... qui pouvait céder à l'influence protestante. Et il y a eu toute une stratégie de reconquête catholique, avec du coup une construction de beaucoup de couvents. Il y a une église, il y a le lycée Corneille qui est juste à côté, qui est le lycée où a étudié Flaubert, Corneille, Maupassant. Il y a eu toute une stratégie de réimplantation du catholicisme. Il y a une personne qui nous accompagne beaucoup, qui s'appelle Bertrand, et qui est spécialiste du patrimoine. Bertrand, il en parle bien, mais c'est dommage qu'il soit pas là.
Je m'appelle Bertrand Rouziès, je suis membre de l'association La Boise de Saint-Nicaise.
C'est-à-dire
qu'est-ce qu'une boise? Bon, Saint-Nicaise renvoie à l'église Saint-Nicaise, qui est l'église paroissiale du quartier ouvrier, qui était le quartier Saint-Nicaise, l'ancienne église paroissiale, puisqu'elle est désaffectée depuis quelques années déjà. La boise, c'est un terme de patois du pays de Bray, qui signifie une grosse poutre, des fameuses maisons à colombages qui sont une des caractéristiques architecturales de Rouen. Et cette boise, c'était un élément de récupération pour le quartier Saint-Nicaise jusqu'au XVIIe siècle, comme banc à palabres, où on discutait des dernières nouvelles, où on rendait aussi la justice, une justice locale bien sûr, hein, pour résoudre les différends entre riverains. Et cette boise ouvrière a été, lors d'un raid nocturne, détruite par les paroissiens de Saint-Godard, une paroisse bourgeoise, la paroisse des parlementaires, et ça a donné lieu à des rixes pendant des semaines dans la ville. Il a fallu que le gouverneur de Normandie et l'archevêque de Rouen mettent le holà pour ramener le calme. Voilà. Et comme notre association est née dans le contexte de Nuit Debout, qui était un contexte social dur, nous avons voulu maintenir le lien avec cette histoire-là du quartier, cette histoire ouvrière, qui est une histoire profonde. Il y avait à l'époque un enjeu patrimonial, puisque l'église est sauvée depuis. Hein. C'est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer, c'est que l'église Saint-Nicaise est sauvée en tant que monument historique. Mais elle a été occupée par Nuit Debout en 2016, de mai à juin 2016. Et nous qui étions riverains et passionnés de patrimoine, nous avons observé ce que les jeunes de Nuit Debout y faisaient. Ils en avaient fait un peu leur quartier général, leur forteresse, leur lieu de discussion également. Ils nous ont donné idée, à nous, qui nous interrogions sur le devenir de cet édifice qui était à l'abandon. Ils nous ont donné l'idée et l'énergie de nous battre pour lui, pour cet édifice. Alors l'église Saint-Nicaise, par convention, on continue de l'appeler l'église Saint-Nicaise, mais elle a été exécrée, c'est une forme de désacralisation, bien qu'elle ait conservé d'ailleurs tout son mobilier, hein, c'est un bel enjeu de restauration que d'imaginer une reconversion. Elle va se transformer en église brasserie, ce sera la première église brasserie de France, comme on en trouve en Hollande ou en Écosse, qui va conserver une bonne partie du mobilier. Et parmi ces jeunes de Nuit Debout qui se sont battus pour maintenir l'église Saint-Nicaise qui était menacée de destruction et de vente à un promoteur, donc qui se sont battus pour la maintenir dans les communs, eh bien certains parmi ces jeunes se retrouvent sur un autre dossier du quartier Saint-Nicaise, un autre dossier brûlant, une deuxième ZAD, une deuxième zone à défendre en quelque sorte, la ZAD des Jardins Joyeux, de l'ancien foyer Sainte-Marie.
Il y a 10-15 personnes qui habitent là, parce que aussi on est fréquemment sollicité pour accueillir des personnes. On a beaucoup accueilli de réfugiés, de migrants, on a essayé d'axer un petit peu là-dessus. Et puis des personnes en grande précarité... Puis en plus de ça, des gens qui sont organisés politiquement. Voilà, on essaie d'avoir la dimension à la fois d'accueil, d'hébergement et puis de lutte écologique, de montrer que c'est possible d'avoir un petit poulailler, des jardins en plein dans le centre.
Ici, c'est l'espace potager, enfin potager, jardin partagé, quoi.
Reconnecter aussi les gens de la ville avec la nature, parce que c'est sûr qu'on est souvent déconnecté de ça. Surtout à Rouen, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Donc c'est une des luttes aussi qu'on a là par rapport à la préservation des jardins.
Donc l'idée là c'est de bloquer le chantier et puis de réfléchir à un autre projet, quoi, c'est ça?
On a présenté un contre-projet avec différents axes autour de la culture, enfin des cultures, de l'hébergement, des associations, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
L'énergie,
en fait, ouais.
Un lieu d'expérimentation.
C'est ça, un tiers-lieu qui puisse permettre d'avoir toutes ces choses-là à la fois, puis remettre un petit peu de nature en plein centre-ville.
Et la dimension sur l'éducation populaire aussi. Ouais. Ce ne sera pas juste faire une maison des associations comme il en existe aussi à plein d'autres endroits. C'est vraiment essayer d'imaginer un nouveau type de lieu qui propose plein d'activités, de possibilités différentes, que chacun puisse s'en emparer, et en priorité aussi en fait les habitants du quartier.
Parce que c'était assez caché, hein, c'est ça, hein, derrière le portail, les murs tout autour et tout ça, donc le voisinage n'avait pas vraiment conscience qu'il y avait cet espace vert, ce jardin incroyable. Joyeux.
Petit secret préservé, qui a été révélé, qu'on veut partager.
En centre-ville, on voit les étés de plus en plus chauds. Dans des villes toutes bétonnées, où on crève de chaud, franchement, d'avoir un poumon vert, un endroit où respirer pour les voisins, pour tout le monde, ça peut vraiment être utile, quoi.
Avec des espèces endémiques. Il y en a deux. Il y a l'oiseau, alors, qui s'appelle le rouge-queue-noir.
Le rouge-queue-noir.
Le rouge-queue-noir, il est endémique. Et il y a un insecte aussi, qui est endémique et qui a été retrouvé cet été.
Là, on va commencer à avoir épuisé les ressources juridiques, parce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs appels, plusieurs procès.
Ah, ça, on est où alors, ouais.
Le 17 décembre, normalement, il y a eu un rendu qui devait être le rendu définitif et qui a annoncé que les gens qui étaient dans le lieu des Jardins Joyeux devaient le vider à partir du 10 janvier. Hors complètement de la trêve hivernale, si jamais les gens qui sont dans le lieu devaient ne pas y avoir droit, il faudrait que la justice se prononce là-dessus, dise quelque chose. On jette pas des gens dehors comme ça en plein milieu du mois de janvier. Il y a dans le lieu, il y a des gens qui sont là, effectivement, il y a des gens qui sont accueillis, mais c'est aussi des gens qui ont leur propre vie, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller à l'université, qui sont dans ce lieu. Et il y a même des gens qui sont dans ce lieu, qui vont à l'école tous les matins. Donc non, on ne peut pas jeter tous ces gens-là à la rue.
On sait pas vraiment quoi. On a été invité à la mairie par le groupe élu des écologistes qui nous ont témoigné leur soutien. Mais pour l'instant, ça coince un petit peu, notamment avec le maire. On a fait plusieurs lettres ouvertes au maire, on s'est adressé directement à lui et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il se positionne, surtout que c'est le monsieur écologie d'Anne Hidalgo. Hidalgo a fait sa déclaration de candidature à Rouen. Et donc, c'est une des personnes qui travaille de manière très resserrée avec elle.
Le permis de construire a été validé juste avant que le plan d'urbanisme change et finalement, ça serait plus constructible actuellement, le jardin, dans l'état actuel du plan d'urbanisme.
Bon, il a été acheté vraiment pour un prix modique, quoi, 4 millions d'euros. Et là, maintenant, on l'estimerait à 8 millions ou même peut-être avec une reconstruction à 25 millions d'euros. Donc, il y aura une grosse plus-value que... Enfin, il y a un article du Poulpe qui a été assez intéressant.
Alors le Poulpe, c'est un journal local, c'est ça ?
Ouais, c'est un journal d'investigation local. Il a été acheté quand même dans des conditions un peu douteuses, quoi, parce que il y a eu un premier achat et puis après une revente.
Et vous êtes organisé comment ? Vous êtes un collectif, informel, ou vous avez monté une asso ?
Il y a une association qui a été montée. Ouais. Et au départ, ça a commencé comme un collectif informel de gens qui se sentaient concernés, quoi, par la préservation de ce lieu-là. Des voisins, des voisines. Des militants, des militantes, quoi.
Ce qui se joue, en fait, c'est l'âme de tout un quartier. Le quartier Saint-Nicaise, c'est un quartier combatif socialement. C'est un quartier ouvrier qui ne s'est pas laissé marcher dessus, qui a participé à plusieurs révoltes et même plusieurs révolutions au cours du 19e siècle. Un des derniers quartiers populaires du centre historique rouennais. Qui a subi pas mal de mutilations dans les années 70. Hein. Il n'a pas tant été touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale que par les urbanistes fous des années 70 qui voulaient tout bétonner. Ses habitants se sont battus pour lui. Et là, il nous faut remettre le couvert puisqu'il y a une poussée spéculative, hein, mais comme dans beaucoup de centres-villes en France. Et finalement, l'occupation du foyer Sainte-Marie a mis l'accent sur cette menace, l'a rendue plus tangible aussi, puisque s'il n'y avait pas d'occupation, les bulldozers seraient déjà à l'œuvre.
Mais vous avez un nouveau maire, Nicolas Meyer-Rossignol, référent écolo de la campagne d'Anne Hidalgo, qui va sûrement mettre un terme à cette bétonisation du centre-ville.
Alors c'était dans son programme, un point qu'il avait en commun avec les écologistes qui vont rallier sa liste au second tour, c'était de mettre un terme à la densification et de favoriser la renaturation de l'espace urbain. Évidemment, le processus était amorcé avant l'arrivée de cette nouvelle municipalité. On aurait espéré qu'un coup d'arrêt serait donné, un coup d'arrêt symbolique serait donné à ce genre d'opération. Eh bien, le maire de Rouen a signé en novembre dernier, fin novembre, un dernier permis, un permis modificatif, qui, s'il n'est pas contestée. Évidemment, tout un arc associatif va déposer des recours. Et surtout, s'il n'y avait pas d'occupation, eh bien, donnerait toute latitude aux promoteurs de faire avancer les bulldozers. Et donc, de détruire le dernier grand espace vert du centre historique rouennais. Une opération destructrice sur le plan patrimonial, sur le plan environnemental et ravageuse sur le plan social, puisqu'elle va accélérer la gentrification, elle va accélérer la hausse du prix du mètre carré dans le quartier. Il pouvait ne pas le faire, ce permis modificatif, il pouvait entrer dans un bras de fer avec le promoteur pour le dégoûter, tout simplement, lui faire renoncer, parce que un promoteur ne peut pas avoir un quartier, l'ensemble d'une municipalité et l'ensemble des associations contre lui.
Alors j'ai lu l'article dans Le Poulpe, mais effectivement, on peut craindre qu'il y ait eu un conflit d'intérêts au départ quoi, de cette vente, c'est ça?
Oui. Bah oui, puisque l'un des financeurs était l'employeur de l'actuel maire avant qu'il ne devienne maire. Voilà, donc ça c'est déjà une chose, même si il s'est dégagé de tous les postes qu'il occupait en rapport avec Nutricette, c'est le nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise Nutricette, c'est une entreprise humanitaire qui fabrique des fortifiants alimentaires pour résoudre notamment la malnutrition des enfants.
Les coulisses d'un projet immobilier rouennais opaque et juteux, c'est dans Le Poulpe et dans Mediapart, puisque lepoulpe.info est partenaire de Mediapart. Vous trouverez toutes les infos sur le site de C'est bientôt demain, sur franceinter.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.